Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode d'AutoStorm qui traite de comment prendre une décision. Comment prendre une décision rapidement, de manière efficace et surtout sans regret. Je rencontre tous les jours avec mes coachés la difficulté que c'est de prendre une décision sur quel objet garder, pourquoi garder celui-ci plutôt qu'un autre, quoi mettre dans mon temps pour être vraiment plus efficace et productive. La prise de décision se cache partout dans notre vie au quotidien. C'est pourquoi nous avons proposé une méthode en 4 étapes. Une méthode simple qui va vous permettre de prendre des décisions de manière éclairée et surtout sans regret. Je vous laisse également découvrir l'importance de prendre ces décisions pour éviter de vous retrouver débordé, voire encombré. Mais je ne vous en dis pas plus. Foncez écouter cet épisode. Comme d'habitude, si vous avez aimé cet épisode, que vous y avez trouvé de la valeur ajoutée, commentez, partagez. Vous pouvez prendre une capture d'écran de l'épisode et le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant. Cela nous aide beaucoup à gagner en visibilité et à faire connaître le podcast. Donc, c'est à vous de jouer et moi, je vous laisse avec le générique. À tout de suite! Bienvenue dans un nouvel épisode d'AutoStorm. L'idée de cet épisode est de vous partager nos trucs et astuces en termes d'organisation, de productivité, mais pas que. C'est ici que Sylvain et moi vous partageons tout ce qui se passe dans nos têtes. Réflexions, tergiversations et idées que nous avons prises en stop ou pas. Les pourquoi de leurs réussites comme leurs échecs. Bref, notre vie d'entrepreneur pas toujours organisée. Un seul maître mot, action. Alors si vous avez envie d'entrer dans nos têtes, c'est par ici. Nous,
c'est Christelle
et Sylvain.
Un duo d'atypiques complètement chelou. Sylvain est un ancien contrôleur de gestion, ouch, devenu coach de vie, écrivain et storyteller. Et oui, rien que ça. Sylvain souhaite vous aider à mettre des mots sur vous et vous aider à partager votre expérience au plus grand nombre. Et moi, une ancienne chercheuse qui cherche encore un peu sa voix, c'est pour ça que je suis devenue organisatrice d'intérieur et facilitatrice de vie, pour m'organiser de l'intérieur et m'épanouir à l'extérieur. Mais le mieux, c'est de vous laisser découvrir notre univers. Voyez cette capsule comme un bon moment entre amis, un bon verre à la main et une ambiance musicale funky. Alors maintenant que le cadre est posé, nous vous proposons de commencer.
Bonjour Christelle.
Bonjour Sylvain, bonjour les farpettes, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, j'avais hâte de commencer aujourd'hui.
Après un petit tour de trampoline pour être...
Exactement. Après un petit tour de trampoline pour se mettre en énergie, c'est parti.
Rien de mieux. Plus tard, tu verras, dans toutes les entreprises, il y aura ça. Pour bien, avant une réunion, pour bien se booster, se lâcher les énergies et tout, pour être qualité de présence maximale.
Ouais, super plan si vous voulez investir dans un petit trampoline pour vos salariés. C'est parti, faites-le.
Contactez-moi. Ouais.
Je vais ouvrir mon entreprise de vente de trampolines.
Bah, on ne sait jamais. Hein. C'est des fois, les coups de cœur, ça amène loin après. Hein. Mais en tout cas, là, aujourd'hui, nous, on était hyper contents de se retrouver pour évoquer une thématique qui est toujours au cœur de l'organisation. Organisation, efficacité, productivité, c'est comment prendre des bonnes décisions finalement. Parce qu'on sait qu'il y a énormément d'alternatives possibles dans nos existences. Et finalement, comment, pour ne pas regretter, comment être sûr de prendre des décisions qui nous vont, en fait?
C'est ça, et j'ai envie d'introduire ce podcast avec une expression que j'ai entendue hier, donc c'est tout frais, sûrement vous devez la connaître, mais moi je la connaissais pas, donc je me suis dit ça sera une super intro pour notre épisode du jour. Cette expression dit qu'une demi-décision égale à bordel au carré.
Waouh, une demi-décision égale à un bordel au carré.
C'est ça.
Ça met la pression là.
Ah ouais, ça, et j'ai trouvé ça génial parce que moi, j'avais une autre expression qui disait que, par exemple, dans la gestion des papiers, que quand on avait une pile de papiers sur son bureau, c'était qu'on avait, qu'il y avait une pile de décisions non prises. Et donc, ça m'a fait penser à ça et je me suis dit, ça va être génial. Donc, le thème d'aujourd'hui, c'est prendre une décision. Comment prendre une décision pour qu'elle soit rapide, efficace et surtout sans regret. On va vous partager plein de trucs et astuces, plein de méthodes pour qu'au quotidien, on ait plus de prise de tête pour prendre une décision. Parce que toi, je sais pas Sylvain, mais moi en tout cas, prendre une décision, c'est un calvaire. Il y a qu'à voir par exemple quand je rentre dans un restaurant et que la carte, elle a mes 50 plat, mais j'en ai pour une demi-heure. Je suis en train de tout lire, faut que je lise tout dans le moindre détail. Je suis là, alors est-ce que je veux plus de la salade? Est-ce que je veux du poisson? Est-ce que je veux du sans viande? Est-ce que je veux de la viande? Enfin bref, tu es là à regarder tous les trucs et en fait, moi, le choix, trop de choix, ça me perturbe, ça tue ma décision, tout simplement.
Du coup, quelle technique tu as réussi à trouver, notamment par exemple pour prendre l'exemple du restaurant?
Comme normalement je suis plutôt végétarienne,
C'est-à-dire que je déjeune seule. Du coup, je déjeune seule, comme ça je peux mettre une heure à choisir et j'en veux de personne.
Non, mais du coup, voilà, comme j'ai plutôt un régime, on va dire, végétarien, du coup, je regarde que la partie végétarienne. En général, j'ai de la chance parce que il y a très peu de plats, on va dire, d'origine végétarienne où il n'y a que du végétarien, c'est rare. Enfin, c'est en peu de nombre. Et donc, moi, ça me simplifie la vie dans mon choix. Et en plus, si on ramène ça à mon dada qui est l'encombrement et le rangement, et il y a qu'à voir si on fait le rapprochement. Quand on a énormément de choses chez soi, énormément d'affaires chez soi, qu'on doit prendre une décision pour savoir où est-ce que je range ça, où est-ce que ça se met. Si en plus on n'est pas, on n'a pas mis en place un système de rangement qui soit simple. À chaque fois on va se dire ça se range là, mais au final il y en aura une partie qui aura été rangée ailleurs. Et tous les jours, en fait, on va finir par se dire « Non, mais ça, je le laisse là en attendant parce que on n'a pas envie de prendre cette décision, clairement. On a d'autres choses à faire. » Et donc, c'était un peu pour vous introduire le contexte de cet épisode qui est « Moins on a de choses dans son environnement et plus il est facile de décider de quoi en faire, de comment l'utiliser, de où le mettre. À l'image du restaurant, plus il y en a, plus on peut se sentir décontenancé sur le choix à faire. Et ça m'amène à l'exemple de Barack Obama et aussi de Steve Jobs qui ont décidé de réduire leur nombre de prises de décision pour, on va dire, de prises de décision génériques et sans importance, comme par exemple le choix de leurs vêtements le matin. Ils en avaient marre de choisir, de prendre une décision, de savoir qu'est-ce qu'ils allaient porter le matin. Pour eux, c'était une décision qui n'avait pas d'importance. Ils s'en fichaient complètement. Ils préféraient concentrer leur capacité intellectuelle sur des vraies stratégies, des choix de stratégie et de développement pour le pays d'Amérique du Nord, pour Obama, et pour Steve Jobs, pour son entreprise. Et ils ont décidé de se créer un uniforme avec, par exemple, pour Obama, où il avait tous ses costumes de la même couleur, identiques, des chemises de la même couleur, identiques. Et donc, le matin, il n'avait pas à se demander qu'est-ce qu'il allait porter. Il prenait son uniforme et il allait au travail. Et Steve Jobs, c'était pareil, mais sous un format un peu plus décontracté.
Le fameux col roulé, là, c'est ça?
Oui, je crois que c'est le jean et le col roulé gris ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, voilà, il avait réduit, pareil, sa prise de décision sur sur la façon de s'habiller. Et donc, bah, tout ça pour en venir au fait de quelles sont les décisions vraiment importantes à prendre dans la journée. Est-ce qu'on a envie de tout décider? Moi, je sais que j'ai une fatigue décisionnelle qui arrive assez rapidement. Et à tel point que, en vrai, je m'en fiche de savoir ce que je vais manger, je m'en fiche de savoir ce que je vais porter. J'ai juste envie de prendre des décisions pour des choses qui vont soit me permettre d'atteindre mon objectif ou d'aller vers mon objectif, ou encore bah, de laisser la prise de décision à quelqu'un d'autre quand ce sont des choix qui m'importent peu. Et donc, par exemple, souvent, donc moi, j'ai un compagnon très attentionné et donc il me demande toujours mon avis, ce que je veux, etc. Parce que pour lui, c'est me mettre dans un confort et de me laisser le choix. Pour lui, c'est royal, c'est un luxe. Et souvent, en fait, on est un peu en désaccord là-dessus parce qu'il me demande, le soir, on a notre petite habitude de boire une boisson chaude. Et donc, il me dit, bah, à quel parfum tu veux cette boisson chaude? Et le matin, c'est pareil, on boit du thé et quel parfum de thé tu veux? Et en fait, je m'en fiche, mais totalement, j'ai pas envie de décider de ce truc-là parce que, en plus, on a du choix à la maison, comme on est passionné de thé. Enfin, moi, en tout cas, je suis passionné de thé. On a du choix. Il n'y a pas qu'un peu. Donc, me demander en plus d'aller choisir le parfum de cette boisson, de ce thé, je m'en fiche parce que tout ce qu'il y a, c'est ce qu'on a acheté, c'est ce que j'aime. Donc, vu qu'il n'y a que des trucs que j'aime, je m'en fiche que ça soit celui que j'aime à 7 sur 10 ou celui que j'aime à 10 sur 10. Je m'en fiche. Et donc, voilà. Donc, sur des petites décisions comme ça au quotidien, j'ai tendance à déléguer et à laisser l'autre choisir parce que moi, ça me prend vraiment en énergie.
Donc, du coup, comme tu nous avais dit au départ avec par exemple, le vestimentaire, soit prendre uniquement, donc réduire, contrairement au thé, là, réduire la variété de vêtements pour avoir des vêtements qui remplissent exactement le rôle qu'on a souhaité, qu'on veut, c'est donc avoir l'allure que l'on souhaite, le confort que l'on souhaite aussi, avec le minimum de prise de tête dans la décision. Donc et dans le cas des actions du quotidien qui nous importent peu, il peut y avoir beaucoup de choix, et du coup, ne pas hésiter à demander à l'autre de faire le choix à notre place et de lui expliquer que c'est pas de l'indifférence, c'est juste que tout nous va, en fait, et que du coup, on laisse à l'autre personne le choix de nous faire plaisir, de nous surprendre, et qu'il le prenne plutôt comme une invitation à nous faire plaisir, à nous surprendre et tout, plutôt que de le voir comme un refus d'être actif dans ce processus-là, en fait, c'est ça?
C'est ça, c'est totalement okay. Ça. En tout cas, moi, c'est mon fonctionnement, mais je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas. Quand on en est face à trop de choix, en gros, trop de choix tue le choix. Se retrouver un peu submergé par toutes ces informations et par toute cette quantité de choses qu'on se retrouve au final, parce que faire un choix, c'est potentiellement faire un comparatif. Faire un comparatif, c'est avoir des critères de sélection. Et donc, un peu, quand on a beaucoup de choix, c'est un peu tout cet entonnoir de réflexion qui se met en place, un peu automatiquement, d'analyse et qui peut consommer énormément d'attention et d'énergie. Si en plus le sujet de ce choix a peu d'impact, a peu d'importance sur le quotidien, autant le simplifier et faire en sorte que ça soit de l'automatisme ou optimiser le choix en n'ayant par exemple qu'une seule tenue, donc un uniforme, ou que très peu de choix de variété pour que la décision soit plus facilement prise. Donc là, c'est un tips à avoir. C'est pour ça que je commençais par l'encombrement et de dire à quel point de désencombrer et d'avoir le moins de choses possible à l'image un peu des minimalistes, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. C'est de réduire le choix. Au final, ça permet d'amener de la clarté mentale et une prise de décision qui sera plus facile et fluide au final.
Ouais, par rapport à ça, du coup, ça m'a marqué quand tu as parlé du fait que dès qu'il faut faire un choix, il y a des critères à comparer et que du coup, il y a la machine à réfléchir qui se met en place. Et c'est vrai que rien que de penser à ça, et surtout quand ça n'a pas de sens, on sent que c'est encore plus énergivore. Et donc, rien que quand le fait que tu as évoqué tout ça, cette énergie, eh ben, je me suis rendu compte de l'importance que ça avait de vraiment passer vite sur les sujets pas importants. Parce que c'est vrai que sinon, c'est vraiment dommage de baisser sa jauge d'énergie d'entrée de jeu, alors qu'on n'a même pas commencé le cœur de la journée, en fait.
C'est ça. Et donc, si on passe à la partie méthodologie, j'ai envie de vous dire que la première étape, c'est bah, de simplifier et de vous concentrer sur vraiment vos objectifs. Est-ce que de décider de tout au quotidien, bah, ça vous apporte quelque chose ou pas? Moi, voilà, j'ai fait mes choix de savoir comment je m'habille, et encore ça, je suis encore en train de me simplifier parce qu'il y a encore du travail. Le choix de la boisson, le choix du repas, enfin voilà, toutes ces petites actions mises bout à bout, ça peut être aussi, je dis n'importe quoi, le choix de la route à faire. Si on a plus trois chemins pour aller au même endroit et que on se dit, ah bah aujourd'hui, par quel chemin je passe? Est-ce que c'est celui-là qui est le moins embouteillé ou est-ce que c'est celui-là qui est le plus court, etc. Mais j'ai pas envie de prendre ces décisions. Donc, soit je délègue, et c'est ce que je fais avec une application GPS. C'est lui qui va me dire, tu passes par là, et puis basta. Mais voilà, j'apprends à déléguer vraiment plein de décisions du quotidien qui ne m'apportent rien. En tout cas, ça va pas changer ma vie si je prends la décision moi-même ou si c'est quelqu'un d'autre qui prend la décision. Par contre, quand il s'agit de mon entreprise, des choix que je dois faire pour développer l'entreprise, pour être plus visible sur de la com ou n'importe quoi, bah là, oui, je prends des décisions et je vais les réfléchir mûrement parce que je sais que ça va m'emmener plus loin dans mes objectifs.
Et par rapport à ça, au cœur du sujet, de ce qui t'intéresse le plus, pour choisir entre les différentes alternatives, comment tu procèdes?
Eh ben, donc, comme je disais, la première étape, simplifier au maximum, déléguer ce qui n'a pas d'importance. La deuxième étape, pour moi, c'est de définir sa priorité. Et je dis bien sa priorité. Par exemple, si on prend l'exemple de la garde-robe, si vous voulez, je dis n'importe quoi, une garde-robe minimaliste, eh ben, quelle est la priorité de cette garde-robe? Est-ce que c'est une priorité de confort? Est-ce que je veux être à l'aise dans tous mes vêtements? Est-ce que c'est la priorité d'être éco-conçu? Est-ce que,
C'est
enfin
beau, c'est
voilà,
beau.
ça va être
Très, très bon mot. Éco-conçu.
bah voilà, ça va être vraiment qu'est-ce que je veux? Déjà, est-ce que je veux voilà une garde-robe, je dis n'importe quoi, rose, une garde-robe minimaliste, etc. Et donc, je vais choisir déjà quelle est ma priorité. Et une fois que j'ai cette priorité-là, eh ben, je passe à l'étape 2, qui est la règle des critères. Enfin, voilà, c'est la mise en place de critères. Et dans ces critères-là, je vous reparle de cette règle-là. On l'a déjà évoquée dans un épisode, celle sur l'essentialisme. Celui sur l'essentialisme, qui est la règle des 90%. Franchement, ça révolutionne mon quotidien. Et c'est vraiment de se dire, j'établis une liste de critères, par exemple, sur la garde-robe minimaliste, je veux que mes vêtements soient confortables. Je veux que la matière soit douce ou écologique. Voilà, je mets en place trois critères. Il faut par exemple que la forme, elle soit ample parce que bah, si mon objectif de garde-robe minimaliste, c'est d'être confortable, bah, je n'ai pas envie d'être serrée dans mes vêtements. Et donc, je vais mettre en place voilà, ma liste de trois critères maximum parce que je n'ai pas envie non plus d'y passer des heures. Et je vais appliquer la règle des 90%, c'est-à-dire que je vais noter chacune des pièces sur une échelle de 1 à 10 et je vais conserver uniquement que les vêtements qui ont 9 ou 10 sur 10. Et je ne me pose pas d'autres questions. Ok, il a le critère 1, il a le critère 2, il a le critère 3. Est-ce qu'il me va? Est-ce qu'il ne me va pas? Est-ce que je suis bien dedans? Est-ce que je ne suis pas bien dedans? Ok, il a 9, il a 10, je garde. Et je procède un peu comme ça mécaniquement, ce qui ne me prend pas trop d'énergie au final, parce que c'est un peu CQFD. C'est voilà, j'ai prouvé par A plus B que bah, ça coche, ça coche, ça coche telle case. Et puis c'est OK. Voilà. Et je fais ça un peu mécaniquement, ce qui ne me demande pas au final de réfléchir plus que ça parce que je suis une grille un peu de lecture, un peu comme, comme une évaluation. On coche les cases et puis soit la personne elle a bien répondu, elle a un point, soit elle n'a pas bien répondu, elle a pas de point. Et après, du coup, ça me permet d'avoir une évaluation rapide, efficace et sans regret parce que j'aurais validé, j'aurais prouvé par A plus B qu'il correspond à mes attentes, à ma priorité et à ce que je recherche.
Et par rapport au classement, tu sais, le fameux dire 9 sur 10 ou 10 sur 10, est-ce qu'il y a une question que tu te poses qui te permet facilement d'avoir une réponse et de te dire « Ok, ça c'est 9 ou ça c'est 10 ?» En français, tu sais.
Eh bien, si je reste sur la catégorie des vêtements, par exemple, ça va être « Est-ce que ce vêtement me va vraiment bien ?» Et dans le vraiment, c'est vraiment ce 90%, quoi. C'est est-ce que vraiment, là, je suis honnête avec moi ? Est-ce que là, vraiment, je suis en accord avec moi ou est-ce que je suis en train de me faire des films ? Ouais. Ou est-ce que je me dis... j'adore le vêtement, mais par contre, j'ai pris 4 kilos, je rentre plus dedans. Mais je l'adore. Et quand je le mettais, il m'allait vraiment bien. Oui, mais entre-temps, t'as pris 4 kilos et tu rentres plus dedans. Donc, faudrait peut-être arrêter de se mentir, d'être authentique et honnête avec soi et de se dire, je laisse passer ce vêtement parce que il n'est plus disponible, on va dire, pour moi à l'instant T.
Et si on, tu sais, on veut pas gâcher en se disant ce truc-là, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup et je compte quand même changer de façon de vivre, de manger mieux, et que je me dis dans un mois, finalement peut-être que j'aurai retrouvé ma silhouette que j'aime. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait de ce fameux vêtement qui potentiellement peut être 9 sur 10, mais pas actuellement?
Eh ben, quand c'en est un, et j'ai envie de dire quand on en garde un, la the best pièce du dressing. Et que c'est
John Travolta, la chemise de rêve. Voilà.
C'est ça. C'est la fièvre du samedi soir. Là. Quand on a the best pièce et qu'on se met comme objectif, comme priorité dans sa vie de perdre du poids et de se dire mon objectif, c'est de réussir à remettre ce vêtement-là. Ok, parce que c'est un projet de vie au final. On sait que à côté, on va peut-être s'inscrire à la salle de sport ou prendre un coach ou aller courir tous les matins. On va se mettre en action pour atteindre cet objectif-là. Et d'avoir la pièce de vêtements sous les yeux, ça va encore plus nous motiver. Donc, quand c'est dans cet élan-là, oui, de garder une pièce. Mais souvent, avec mes clientes, c'est « Ah oui, mais j'ai ce jean-là, moi j'ai une morphologie un peu yo-yo, je prends et je perds du poids. » Et donc, selon ça, elles ont 15 jeans de 2 ou 3 tailles différentes. Et elles me disent « Je garde tout parce que je fais du yo-yo. » Mais même quand on fait du yo-yo, on n'a pas besoin de 15 jeans. Qu'on soit honnête avec soi.
Donc, dans ce cas-là, tu leur dis ça. Tu leur dis…
Oui,
vraiment, quels sont ceux qui vous correspondent vraiment et dans lesquels vous êtes vraiment bien, en fait, ça ?
C'est ça. Est-ce que ce vêtement me va vraiment bien ? Est-ce que je le porte réellement souvent ? Donc, voilà, c'est ça. C'est vraiment ce côté, je me pose la question de est-ce que vraiment ça me va ? Est-ce que vraiment je le porte ? Est-ce que vraiment c'est utile ? Et après, c'est un peu... C'est un peu se mettre face à son miroir, quoi, d'être honnête envers soi et de se dire, ça fait, je dis n'importe quoi, ça fait 4 ans qu'on a ces 4 kilos, ils ne sont pas partis. Alors, c'est peut-être qu'on n'a rien fait pour qu'ils partent, mais du coup, si on n'a rien fait pour qu'ils partent, c'est qu'ils sont bien là, entre guillemets. Et donc, d'accepter et de garder ce qui est bon pour l'instant T.
Nickel. Je trouve ça super intéressant d'avoir cette phrase-là, tu sais, les vraiment et tout, comme ça, je trouve que ça aide à cocher, à remplir le 9 sur 10 ou pas.
Et après, si je donne un autre exemple, si on part sur de la recherche d'emploi, c'est avant d'aller faire sa recherche d'emploi, de se faire sa liste de critères. Moi, comme je disais, je pars sur 3 critères, c'est pour moi amplement suffisant. Et je vais poser par exemple le critère du salaire. Donc, je veux, au minimum, tel salaire. Et on peut même mettre la fourchette, en fait. Le salaire maximum, le salaire minimum. Alors, le maximum, En général, ça passe pas de problème, puisqu'on en a mieux fait. Mais voilà, de dire vraiment, au minimum, cette fourchette-là, c'est ce que je recherche. On peut mettre aussi le critère de la situation géographique, de la zone géographique, de dire, voilà, je veux que ça soit, soit vous, on met des villes, soit on met un périmètre autour de là où on habite, et de dire au maximum, voilà, je veux pas aller plus loin que tel kilomètre, que tant de kilomètres. Ouais. Et le troisième critère, ça peut être par exemple le type d'entreprise. Quelle valeur je veux que l'entreprise révèle ou reflète. Est-ce que c'est plutôt un type d'entreprise type start-up ou plus traditionnel? Enfin voilà, ce qui vous parle et ce que vous avez envie, voilà, comme type d'entreprise dans laquelle vous avez envie d'aller travailler. Et donc après, quand vous allez faire votre recherche d'emploi, tout de suite, vous allez avoir votre liste de trois critères et vous allez regarder, non, il n'y a pas tel critère qui est coché. Ça, non. Et vous allez sélectionner dans la règle des 90% que ceux qui cochent, que les métiers qui cochent les trois critères. Et après, une fois que vous avez votre sélection, alors il est possible qu'il n'y en ait pas du tout. Et là, je vous invite à aller réécouter notre épisode sur l'essentialisme qui vous dit que c'est d'accepter que pour l'instant, il n'y ait pas ce que vous voulez. Et dans la sélection, s'il y en a, vous allez pouvoir ensuite comparer les notes de 1 à 10 que vous avez mises et conserver uniquement l'excellence.
Ouais, super, super. Et j'avoue que ça va pas être évident, notamment on pense à, tu sais, le stress de l'argent et tout, et tu dis, waouh, j'ai pas d'entreprise 9 sur 10, il y a qu'un boulot qui me tente pas trop. Et même dans ces situations-là, l'existentialiste dit, laissez du vide et ne foncez pas, c'est ça?
Oui, l'essentialiste.
Waouh. Ah ouais, c'est... On sent que c'est confrontant, hein.
Oui. C'est pour ça que cette étape-là, elle est un peu mécanique dans le sens où, voilà, on a notre liste de critères, on pose nos notes, mais après, dans la prise de décision finale, on est un peu face à soi-même, face au miroir, à être authentique et vrai envers nous-mêmes et avec les difficultés auxquelles on peut faire face.
Et tu vois, ce que je retiens de tout ce que tu nous as partagé au niveau de ces conseils, c'est vraiment l'importance des critères et donc de mettre de la clarté en soi pour savoir qu'est-ce qui est important. Et ça, je trouve que c'est vraiment très, très fort parce que en partant de vêtements ou d'une situation professionnelle, finalement, c'est assez simple de dire des critères. Les critères peuvent nous venir assez facilement. Et finalement, si on regarde la somme de ces critères-là, finalement, il y a des valeurs peut-être qui se dégagent dans notre vie. Entre le confort, tel truc, etc. Alors que si on posait la question comme ça de but en blanc, qu'est-ce qui est important pour toi, quelles sont tes priorités, ça serait peut-être difficile. Mais le fait de partir d'exemples concrets en disant quelles sont tes priorités au travail, dans les vêtements, dans telle relation, je trouve que ça permet vraiment très concrètement de se questionner et de trouver vite des réponses, sans sentir en disant « oh là là, je pars dans un truc de psychothérapie où au bout de 10 heures, j'aurai toujours pas de réponse ». Là, on sent que très vite, les réponses peuvent arriver. Et je trouve que mettre de la clarté en soi, c'est toujours énormément, ça apporte énormément parce que ça permet d'avoir une plus grande qualité de présence, je trouve, aux choses après.
C'est ça. Et après, je peux vous partager un quatrième point qui est, j'ai envie de dire, un peu plus orienté peut-être pour les profils sentimentaux, comme moi. C'est la contrainte temporelle. C'est de se fixer une date limite de prise de décision pour avoir un peu ce stress, ce côté urgence décisionnelle et qui est une technique d'ailleurs qu'on applique en marketing. Et donc, cette urgence décisionnelle pour qu'on puisse se concentrer uniquement sur les critères principaux ou les premiers détails qui nous viennent à l'esprit pour prendre une décision. Voilà. Et après, ce temps, ce délai de prise de décision, il va être propre à chacun. Là, c'est à nous aussi de la mettre en place et de se dire, est-ce qu'il me faut juste la nuit pour me porter conseil ou est-ce qu'il me faut une semaine, 10 jours? Et voilà.
Ça me rappelait l'épisode qu'on avait fait sur les lois de la productivité. Avec le fait que plus on se laisse le temps et plus on occupe ce temps pour faire les choses. Donc, c'est vrai qu'à la fois, ne pas se précipiter pour pas non plus après regretter et tout, mais on sait, mais être honnête. Finalement, la notion d'honnêteté revient beaucoup. être honnête avec soi-même pour se dire non, ça de si je mets plus de temps que ça pour décider, là ça sera pas bon. Donc vraiment de se dire ouais, là je me fixe ça et comme ça après après on y va. Et c'est comme tu l'as dit, le petit stress nécessaire pour basculer vers un changement quand on le souhaite. Ouais.
C'est ça. Et donc si on résume les points abordés pour cet épisode spécial sur la prise de décision. En méthodologie, vous avez la première étape qui est de déléguer tout ce qui n'est pas important à vos yeux ou sur lequel vous êtes d'accord, peu importe ce qui se passe, vous n'êtes pas difficile là-dessus. En deuxième point, c'est d'établir sa priorité. Quelle est notre priorité pour le sujet concerné? Et donc là, c'est vraiment de connaître son objectif, la direction qu'on veut prendre. La troisième étape, ça va être les critères. Donc, d'établir une liste de 3 critères. Et donc là, ça va nous permettre de définir encore plus ce qu'on veut atteindre comme résultat face au sujet traité. Et le quatrième point, ça va être si vraiment vous avez besoin d'un peu plus de temps, et de vous imposer une contrainte temporelle, une deadline pour prendre votre décision et créer un peu ce sentiment d'urgence décisionnelle. Voilà. Ouais.
Merci beaucoup Christelle et du coup je pense que les Farpettes pourront partager les différents changements qu'elles ont mis en place grâce à cet épisode et aussi elles peuvent te contacter du coup directement via ton site christelleattic.fr pour toute demande, pour des fois être accompagnée parce qu'on sait que souvent le côté romantisme dont tu parlais c'est pas simple à gérer quand on doit faire des choix et du coup ça peut toujours être intéressant d'être accompagnée par rapport à ça.
Oui, c'est avec plaisir si vous avez besoin d'aide pour être accompagné dans vos prises de décision face à vos possessions, à l'organisation de votre agenda et de votre temps pour être plus productif et plus serein au quotidien, plus sereine au quotidien. Et surtout, si vous avez aimé cet épisode, partagez-le à une amie, une connaissance à qui vous savez que ça va lui porter des éléments de réponse et des bienfaits. Et si vous avez encore plus aimé, vous pouvez nous laisser un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles pour nous noter. Vous pouvez aussi nous noter sur Spotify. Et donc, ça nous aide beaucoup à gagner en visibilité et à nous faire connaître et à encore plus partager plein de choses.
Wow. Merci beaucoup. Et aussi, du coup, vous pouvez retrouver l'épisode sur l'essentialisme et sur les lois de la productivité qu'on a évoqué lors de cet épisode. Vous pouvez à nouveau les réécouter pour encore plus retrouver certains détails qu'on avait évoqués lors de ces épisodes.
Oui, on vous mettra le lien des épisodes dans la description.
Super. Merci beaucoup, Christelle.
Merci Sylvain. Merci aux Farpettes.
Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel Autostorm.
À bientôt. Keep cool.
Keep cool.